Jean-François Copé. Prenne mon portable en attendant qu'il sonne.
En attendant, on va rencontrer Thomas Piketty, qui est un économiste et qui a beaucoup travaillé sur les impôts, tout simplement.
Alors, Thomas Piketty, là, attendez, où est-ce que je lis mon bouquin ? Je suis en train de lire la biographie de Joseph Caillaux, le ministre des Finances qui a porté sur les fonds baptismaux l'impôt sur le revenu. Ce que je découvre, c'est que, d'abord, en 1848, il y avait déjà l'idée d'un impôt sur le revenu, qui était rejeté par M. Thiers en disant l'impôt direct est celui des pays barbares, donc il préférait l'impôt en direct. En 1871, juste après près l'Empire, l'idée d'un impôt sur le revenu revient. Thiers revient à nouveau en disant qu'il ne faudrait pas semer des germes de discorde, l'homme qui venait de faire tirer sur la commune deux mois avant, puisqu'on est en 1871. Ensuite, de 71 à 98, je vois qu'il y a eu une centaine de propositions formulées par des députés qui ont toutes été rejetées de création d'un impôt sur la fortune. D'un impôt sur le revenu. Et ça n'est proposé par Joseph Caillaux, donc en 1907, à un taux de 3 à 5% à l'époque, donc c'est pas très élevé. C'est discuté pendant 2 ans. Le projet est quand même discuté pendant 2 ans à l'Assemblée nationale. C'est hallucinant. On se dit, là, il y a une résistance. Non seulement ils ont résisté pendant 60 ans pour que ça passe pas, au moment où ça arrive devant l'Assemblée nationale, ça y reste pendant 2 ans. Le gars se fait traiter de tous les noms. Le gars, c'est Caillaux. Il se fait traiter de tous les noms. On lui dit que son projet constitue un péril national et ainsi de suite. Il est soutenu par Jaurès. Donc, au bout de 2 ans, le projet passe en mars 2009. Là, il est encore retardé par le Sénat. Parce que là, on croit que c'est fini. On croit qu'il a gagné. Le Sénat, il bloque le truc. Et en fait, c'est juste parce qu'il redevient ministre en 1914, Caillaux, au moment de la guerre, de l'entrée en guerre. Et là, et en fait, ça n'est que très partiellement mis en œuvre, même en 1914. Enfin, il y a un déchaînement de toute la bourgeoisie contre Caillaux, à tel point qu'il y a une campagne de presse qui est menée, notamment par le Figaro, qui dure pendant 3 mois, où on le traite de plutocrate démagogue. On l'accuse de corruption, on l'accuse de tout, d'être un agent de l'Allemagne, et ainsi de suite. On sort des lettres intimes, à tel point que la femme de Caillaux va aller voir le directeur du Figaro avec un flingue et tuer le directeur du Figaro avec 5 balles dans la tête. Donc on dit que là, quand il s'agit d'installer un impôt progressif, un impôt sur les revenus, il y a eu une résistance en face qui était absolument considérable, qui au fond, enfin je sais pas, c'est une lecture historique du XXe siècle, mais vous allez me corriger, je viens vous voir pour ça. Au fond, pour des raisons historiques, parce qu'il y a eu la révolution russe, parce qu'il y a eu la menace en 1945, le compromis, on va dire, entre les gaullistes et les communistes. Il y a eu une acceptation de cet impôt sur le revenu, même dans les années 70. Je regardais des archives de l'INA, il y avait des députés de droite, Michel Poniatowski, Didier Bariani, donc pas des super progressistes, mais qui demandaient à renforcer l'impôt sur les successions, à créer un impôt sur la fortune. Donc le vent souffle dans le dos des progressistes pour créer des impôts comme ça. Et tout retombe dans les années 80, où là, quand je consulte, je vais à la documentation de Radio France, Claire Chazal, elle est journaliste aux Échos à l'époque, Claire Chazal, elle fait des papiers en disant « Regardez la révolution fiscale américaine, c'est vers ça qu'il faut aller. » On a des universitaires qui prennent la parole en disant « Il faut plus d'impôt sur le revenu du tout. » Donc on a l'impression que là, enfin, il y a eu un compromis jusqu'à la fin des années 70, et là, tout bascule dans les années 80, comme s'il y avait un relâchement à gauche, et puis qu'on revenait au débat du moment où Caillaux tente d'instaurer son impôt sur le revenu.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette lecture. Je tire plusieurs leçons de ça. Premièrement, la capacité des possédants à faire preuve de mauvaise foi pour défendre leur bout de gras est absolument sans limite. Hein. Et elle était sans limite en 1900-1910 quand il s'agissait de repousser absolument cet horrible impôt sur le revenu qui n'avait pourtant dans le projet de Caillaux qu'un taux maximal de 5%. Hein. Mais pendant 20 ans, 30 ans, les possédants ont fait en sorte de le repousser. Et pourtant, on était dans une société qui était formellement démocratique, enfin avec une presse libre, des élections. Et je pense que c'est une leçon qui vaut encore pour aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, on est une société démocratique, mais la capacité d'une minorité à défendre ses intérêts et à faire preuve d'une mauvaise foi absolument sans limite pour prétendre que c'est l'intérêt général, que leur intérêt particulier se confond avec l'intérêt général, et pour finir, pour ne pas payer d'impôts, pour en payer le moins possible, cette capacité-là est sans limite. Et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience. Et leur capacité aussi, chez certains journalistes, à défendre ce type d'agenda politique et ce type de discours.
En 1924, j'ai lu que la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, ça montait jusqu'à 90%. Enfin, les plus hauts revenus des plus hauts revenus pouvaient taxer jusqu'à 90%.